Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem Tovim Veshanim Ne'emim. Poursuivons notre étude de Sefer Parashat Shemot. Nous sommes arrivés quand le temps de la délivrance, les prémices de la délivrance sont parvenus à jaillir. Le temps des prémices de la délivrance sont arrivés. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vayi bayamim marabimaim. Donc c'est après que Moshe s'est installé chez Yitro et qu'il s'occupe de ses troupeaux. Et remarquez, vayi bayamim marabimaim, vayamot melech mitzrayim, vayan choben Israël min avoda. Donc le roi d'Égypte est mort. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'il est mort? Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il est mort vraiment. Il y en a qui disent que c'est qu'il est devenu lépreux. Il a été frappé de lèpre. Et on lui a dit que pour guérir de sa maladie, il fallait qu'il se baigne dans le sang des enfants. Donc on tuait tous les jours, on égorgeait des enfants tous les jours. Donc ça a aggravé la situation. Alors, ce qui a marqué, voyant ou béni Israël mina avoda. Ils se sont plaints, ils ont soufflé, voyzaku, ils ont crié. Leur plainte est montée jusqu'à Dieu. Dans le travail, ils n'avaient pas le temps de s'arrêter. Donc, en travaillant, la souffrance était telle que la voix, le cri, la plainte est montée jusqu'à Dieu. Après, il est dit, Vaishma Elohim et Nakata. L'Éternel a entendu leur complainte, leur supplique. Vaiskor Elohim et Berito, et l'Éternel s'est souvenu de son alliance. Et Avraham et Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim et Ben Israël, Vayeda Elohim. Et l'Éternel a vu les enfants d'Israël, et l'Éternel a su. Alors regardons combien de fois le mot Elohim est mentionné ici. Il dit Vata'al Shavatam et Ela Elohim. Une fois. Vaishma Elohim et Nakatan, Vaiskor Elohim et Berito, Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a marqué 5 fois le nom Elohim. C'est pas fortuit qu'il ait marqué ici 5 fois le nom Elohim. En effet, nos maîtres disent que il est marqué, il y a un pasouk dans Parashat Bo, dans lequel il est dit lors de la sortie. Et voilà que les enfants d'Israël sont restés en Égypte 430 ans. C'est ainsi qu'il est marqué. Donc, en fait, ils ne sont pas restés 430 ans. Rashi explique que 430 ans, c'est depuis la naissance de Yitzhak. Mais en réalité, eux, ils ne sont pas restés 430 ans. Ils auraient dû rester 430 ans. Mais à quoi cela correspond, 430? Et combien de temps et ils ont été asservis. Alors 430, en réalité, l'asservissement, ils sont restés 210 ans exilés. C'est un premier temps. Après, ils sont 117 ans, ils ont été asservis. Et 86 ans, ils ont été totalement éprouvés, oppressés. La avoda kasha, vaymaru et hayim ba avoda kasha, comme il est dit ici. Que c'est l'âge de Myriam. 86 correspond à la valeur numérique du nom Elohim. Le nom Elohim est le nom de la rigueur. Cette rigueur ici doit se manifester à cinq niveaux. Et donc 5 fois 86, ça fait 430. Voilà à quoi ça correspond. Donc ça veut dire en vérité, les Bnei Israël auraient dû rester en Égypte plus que 210 ans, mais oppressés, l'oppression totale, telle que la vie de Myriam le traduit, Myriam, ça veut dire l'amertume, aurait dû être oppressé 430 ans, c'est-à-dire 5 fois Elohim. Ils sont restés que 81 fois Elohim. Pourquoi ça s'est interrompu? Alors regardons, il y a marqué que l'oppression était telle qu'ils ne pouvaient plus supporter. Ils ont soufflé. la souffrance exprimée par le souffle, par la plainte. Après, ils ont crié de douleur. Et leur douleur est montée. Cette douleur, ce cri est transformé en supplique. Elle est montée jusqu'à Dieu. Et d'où elle est montée? Elle est montée du fin fond de la souffrance du travail. Et là, il a dit, Vaishma Elohim et Nachatam. Il a entendu leur plainte. Et après, il a dit, Vaiskor Elohim et Berito. Il s'est rappelé, Kadosh Baruch Hu s'est rappelé de l'alliance avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Brit, que eux-mêmes ont délaissé. Mais ce Brit-là, il a une puissance telle que ce serait à vote. Donc ils vont être libérés, non pas parce qu'ils méritent d'être libérés, mais parce qu'il y a une alliance qui a été formée, c'est ce qu'on appelle le mérite des pères. Après il dit, Vayar Elohim et Béni Israël, il a vu, et Akadosh Baruch Hu a porté son regard sur les enfants d'Israël et il l'a su. Vayeda Elohim. Donc au début nous avons ce concept que Dieu a entendu. Ce qui est dit, Vaishma Elohim et Nachatam. Et il s'est souvenu. Donc le fait d'entendre, quelle différence il y a entre le fait d'entendre et le fait de regarder? Quand on entend ce que celui qui crie ou qui parle veut nous dire. Donc on tient compte de ce que la personne dit. Quand Dieu observe et regarde, alors là, ça peut avoir deux facettes. Ou bien, on ne tient pas compte de ce qu'il dit, mais on voit la situation, on peut juger avec plus de rigueur. Ou bien on peut savoir beaucoup plus. On peut voir quand on observe la souffrance de l'esclavage, on peut, en observant la souffrance de l'esclavage, constate une souffrance et une oppression plus que ce que la complainte veut bien vouloir dire. Donc il y a une augmentation de la miséricorde ici. C'est ce qui est marqué Vayeda Elohim, le Lashon Yedia. À quoi cela fait référence? La pire des choses qui leur est arrivée, nous disent les Mfarshim, c'est, d'ailleurs c'est mentionné, nous le disons dans la Haggadah, c'est le fait qu'ils étaient tellement affaiblis, tellement désespérés, tellement perdus, qu'ils n'avaient plus envie d'avoir des enfants. Et ça, c'est la pire des choses. Et ça, en réalité, c'est ça la volonté des Égyptiens. C'est à cela que voulaient parvenir les Égyptiens, les décourager de l'existence. Donc, quelqu'un qui est découragé de l'existence, sa propre vie est un calvaire total et qu'il n'a aucun espoir pour ses enfants, alors il préfère ne pas avoir d'enfants. Et là, c'est la pire des choses, puisque la plus grande mitzvah, la raison d'être de la création, l'otohu bera'a, et là, la shev et tzara. Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit rempli. La plus grande mitzvah, c'est d'apporter les enfants. Donc de procréer. Et là, c'est ça, Vayeda. Et cette mitzvah-là de procréation, elle est qualifiée dans le texte, quand la Torah dit que Adam s'est uni à sa femme, il est marqué, Vayeda Adam et Chava Ishto. C'est la connaissance. Donc il a pris conscience que l'existence n'a de raison d'être que quand il s'unit à sa femme et qu'il donne la vie à des enfants. Et c'est ça ce que Akash Boko a pris conscience. Il a su. Vayeda, il a su. Donc il va, et immédiatement, il va agir. Il est dit ici, donc il y a ici une accélération de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, Dieu, il avait, comme si que Dieu, il a oublié, il a laissé faire les choses. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Est-ce qu'on a besoin de prier, de crier, pour déclarer à Dieu qu'il vient nous secourir, pour implorer le secours divin? Et il est dit, Vaishma, il a entendu, il s'est souvenu. Mais parce qu'il y a l'oubli chez Dieu? Il ne voit pas ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une surveillance continuelle, Kadosh Baruch Hu regarde tout ce qui se passe sur terre, ou bien ils s'en moquent et ils détournent le regard. Alors ici, il est dit que il y a deux concepts. Nous avons déjà souligné qu'il y a deux idées, deux manières de conduire le monde. la manière naturelle et la manière surnaturelle. Donc, Kadosh Baruch Hu a conféré à Pharaon, à l'Égypte, le droit sur les bénis Israël. Donc, c'est ce droit-là qui s'applique et c'est parti pour 430 ans. Donc, c'est-à-dire que l'autre conduite qui est surnaturelle, elle est en sommeil, elle se retire. C'est le droit de domination de l'âme Israël, il est entre les mains de Pharaon. Et c'est là que la prière intervient. Le cri, il est plus fort. Il n'y a pas marqué le mot prière dans tout ça. Il n'y a que des cris, que des plaintes. Il n'y a pas de mots. Ils n'ont pas exprimé les choses avec des mots, mais avec le souffle, avec la voix. Donc, dans la prière, il y a la voix et les mots. Donc, les mots sont portés par la voix. Et la voix a un niveau. La voix, elle ressemble au son du chauffard. C'est pour ça que le son du chauffard est une prière sans mots. Elle traduit la profondeur de la demande. C'est quand on parle et qu'on fait la prière, alors il y a les mots, mais les mots doivent être dits avec une intonation, avec l'expression des émotions. La supplique doit traduire la fidélité, la vérité, le fond, la sincérité. Si c'est une demande joyeuse, c'est si on exprime la joie dans la prière, alors il faut chanter, il faut exprimer la joie, célébrer Dieu. La prière peut-être aussi, on peut ne pas demander à Dieu de grandir son nom. Et on peut demander à Dieu de nous octroyer, de nous exaucer dans des situations difficiles. Mais la prière doit être exprimée par ces émotions-là. C'est ça la voix. Et là, il n'y a pas de mots. Donc le niveau d'expression, il dépasse les mots. Donc c'est cette force-là, il y a une force dans le son, dans la voix, qui est sans mots, de traverser les écrans et de monter, de parvenir à traverser, à percer les écrans qui empêche les prières de monter pour parvenir au trône divin. Et c'est ce qu'il est dit ici. Il est dit, Vayanhu, Vayisaku, Vata'al Shava'atam, Vayishma et Na'akatam. C'est répété plusieurs fois le cri. Le cri, il est amplifié, augmenté. Et c'est ça que Dieu entend. Et là, il est dit cinq fois le mot Elohim. C'est comme si que ce 5 Elohim, il est réalisé en fait. Donc les 86 ans d'oppression sont tellement condensés, tellement denses, que ça va remplacer les 5 fois. Une fois remplace 5 fois. Et il y a plusieurs manières de comprendre ça. C'est que les Égyptiens ont dépassé leurs droits, ont oppressé plus que de raison. C'est-à-dire, en une fois, 86 ans, ils ont oppressé comme si qu'ils avaient oppressé 430 ans. La souffrance subie, le travail fourni, était égal à celui de 430 ans. Autre explication, que c'est les Israéliens, il y a marqué qu'un cinquième est sorti. Donc, ils étaient cinq fois plus nombreux que les 600 000. Donc, ils ont oppressé cinq fois plus. Donc, ils ont obtenu le travail de cinq, le droit des Égyptiens a été de 430 ans sur 600 000 personnes, mais eux, ils ont eu 86 ans d'oppression totale sur cinq fois 600 000 personnes. Comme il est dit, un cinquième qui est sorti. Donc, c'est pour ça que la souffrance était telle que, Vayeda, il a vu, il a constaté. C'est-à-dire, il a constaté plus que dire la plainte, la prière. Alors c'est ça ce qu'il est dit ici. Ou Moshe, Ayaro et son Nitro. Donc c'est à ce moment-là que Dieu, Moshe, que faisait Moshe. Moshe, il était le berger, il faisait paître les troupeaux de Nitro. Et il arrivait jusqu'à... Et dans le désert, il arrivait à Har Elohim Horeba, donc le Har Horeb, le mont Sinaï. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Vayera malach Adonai elav Bilavat Esh, Mitoch Asene. Vaya, donc l'ange de Dieu. Ici, il est dit le Shem Avaya, Malach Hashem, Yutke Vavke. C'est dévoilé à lui. De la flamme, du feu. Mitoch Asene, au milieu du buisson. Vaya, il voit. Bon, Moshe passe par là et observe, et constate, observe, il voit. Il voit que le buisson brûle et est enflammé et qu'il ne se consume pas. Alors là, il est étonné. Qu'est-ce qui se passe là? Si c'est un buisson qui brûle, bon, ça peut être un buisson qui brûle. Mais il constate que le buisson brûle mais ne se consume pas. Yomer Moshe, Moshe se dit, Asurana veret amare agadolaze, madoua loiba arasene. Il dit, voilà, je vais, approchons-nous, éloignons-nous. Il s'éloigne pour, ou il se rapproche, on peut l'interpréter de deux manières, pour, afin de mieux observer, de comprendre pourquoi, madoua loiba arasene, pourquoi le séné ne brûle pas, ne brûle pas ici. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Vaya Hashem qui sert les rocs. Hachem a vu qu'il s'est écarté pour observer, et là il a appelé. Vaikra elav Elohim mitoch haseneh, vayomer Moshe, 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 Moshe. C'est les deux noms de Moshe sont liés. Il n'y a pas une interruption. Moshe, Moshe, vayomer. Et Moshe a dit, je suis présent, présent. Me voici. Donc ici il est dit que Moshe s'est écarté pour voir. Donc qu'est-ce qu'il constate? Ça, c'est une leçon extraordinaire qui est donnée, que si Moshe ne s'était pas arrêté pour observer, s'il ne s'était pas posé la question pourquoi, le pourquoi de ce qu'il voit, et s'il avait passé son chemin, jamais Dieu ne l'aurait appelé. Tout Moshe qu'il est. Donc, c'est comme ça, c'est la leçon. Si on n'a pas de question, on ne peut pas avoir de réponse. L'interrogation, quand on étudie la Torah, on observe le monde, on observe la création. Si on n'a pas de questions, on risque pas d'avoir de réponse. Donc c'est quand Moshe s'est dit, je vais observer pour comprendre pourquoi. Je prends le temps d'observer, j'observe. Il y a des choses qui se passent et on ne prend même pas le temps de... On s'arrête pas pour les observer, on est indifférent. Voilà, Moshe, alors, à quoi ça correspond? Moshe comprend immédiatement que le séné, le buisson, c'est Am Israël, le feu, c'est le feu du Galout. Mais alors, la question, elle est que le feu, où il doit s'arrêter, où le buisson, où le feu doit s'éteindre, où le buisson doit brûler, se consumer entièrement et disparaître. Alors, il dit, moi, voyons, mère Moshe, Asurana, Vere, Atamare, Agadol, Azé. C'est cette grande vision. Donc, c'est une vision prophétique. Madoua loaivra rasene. Pourquoi le feu ne brûle pas? Ne brûle pas, c'est-à-dire que le feu brûle et doit consumer. Alors, c'est alors que Hachem voit qu'il s'écarte pour voir, il appelle. Et Moshe, il répond présent. Ineni, il répond présent. Ça veut dire, je suis prêt. Donc, parfois, Kadosh Baruch Hu, il appelle les hommes, et les hommes reçoivent des messages, et ils ne sont pas prêts, ils ne répondent pas. Donc c'est ça l'idée. L'idée, est-ce que tu es prêt à remplir une mission, à remplir ton rôle, à faire ton rôle, à remplir le rôle pour lequel tu es venu au monde? Alors ça, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de s'interroger sur sa propre existence, savoir pourquoi on est venu sur Terre. Les gens avaient la routine. Alors la routine, Moshe est occupé avec les troupeaux, j'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai un énorme troupeau que je dois m'occuper, donc j'ai pas le temps de regarder le paysage. Et ça, c'est l'erreur. Donc le travail, le quotidien, la routine, prend le dessus sur toute réflexion. Et c'est ça, donc il peut pas répondre, il est ni. Il est pas là, il est ni pour l'autre. Quelqu'un qui t'appelle, Dieu t'appelle. Et est-ce que tu es prêt à entendre et être prêt à te poser un instant? Voyons, Mère Altikra Valom, il lui dit, ne t'approche pas jusque-là. Shalna alecha me'al raglecha. Enlève les chaussures de tes pieds. qui a Makom Asher Ata Omela, là, Vadmat Kodesh, le lieu où la terre sur laquelle tu es debout. Oui, c'est un lieu saint. Alors, pourquoi c'est saint? Parce que c'est ça l'idée, qui est marqué dans les Sfarim. C'est là où Moshe, l'homme qui s'arrête, et qui répond présent à l'appel de la Kedusha, de Dieu, alors lui, ça, il devient saint immédiatement, il est prêt, inéni. Il sait même pas encore de quoi il s'agit. Ça ressemble au Naase Venishma, de Misraël. Il dit, on fait, après on entend. On est prêt, on est présent, on est engagé. On s'engage. S'engage quoi? À faire autre chose que nous avons l'habitude de faire. Changer de posture, changer de cadre, changer les midot, les comportements, changer. On fait plus ce qu'on fait. C'est pas immuable. Je suis comme ça, et ben je change. Donc il est prêt à changer. S'il est prêt à changer, cet engagement-là confère à la personne la sainteté et il sanctifie le lieu où il se place. C'est pour ça qu'il lui dit enlève tes chaussures. Là où tu es, toi, c'est là où tu es que le monde se sanctifie. Donc ça signifie que c'est Dieu. Lieu n'est pas partout dans son monde. Dieu est là où l'homme l'apporte, le fait rentrer, le fait pénétrer. Est-ce que Moshe est prêt à faire une place à Dieu dans son monde? Alors, en répondant inéni, il s'engage à cela. Et immédiatement, Kadosh Baruch Hu lui dit, enlève tes chaussures. La chaussure symbolise la matérialité, l'attachement à la matérialité, parce que le lieu où tu es debout, c'est le lieu saint. À partir de là, là où tu iras, le lieu sera saint. Alors il lui dit, voyons mère, Anochi Elohe Avicha Elohe Avraham, donc il lui dit, alors le Midrash il dit, comment il a appelé? Il a appelé par la voix de son père. Donc c'est pour ça que Moshe a répondu, il va pas le surprendre. Comment il a entendu la voix de Dieu? La voix de son père. Et il lui dit, ah, mon père, non, il dit, je suis pas ton père, je suis le Dieu de ton père, de tes pères. Elohe Avicha, c'est pour ça qu'il lui dit, Anochi Elohe Avicha, je suis le Dieu de ton père. Et le Avraham, le Isaac, le Yaakov, va yaster Moshe Panav qui yarim et habite l'Elohim. Et là, Moshe Rabbeinu cache son visage, cache ses yeux, il craint d'observer ce qui est interdit d'observer. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, va yomer Hashem, ra'o ra'iti, et c'est là que, c'est intéressant, comment Kadosh Baruch Hu lui traduit les choses. Ra'o ra'iti, j'ai vu deux fois plus qu'une. J'ai vu et je verrai. J'ai vu et je verrai. Et on y a mis Hashem Mitzrayim, Vetzar Katam Shamati. J'ai vu leur détresse, leur souffrance, qui est en Égypte, et leur plainte, j'ai entendu. Qui a dati et machova, je connais sa douleur. Donc je suis descendu, les Atsilo pour le sauver miad Mitzrayim, mais là l'auto et la reste et les restes d'Abat Halva. Donc je suis venu pour le sortir, le sauver, le monter, l'amener à la terre d'Israël. Donc ici c'est très intéressant que ça note exactement que le changement de la conduite. Ici la conduite divine va changer, elle va passer la conduite surnaturelle. Conduite, c'est ce qu'on appelle la hashgacha pratit, la surveillance minutieuse de chaque détail de la vie de Ram Israël, qui était en attente, qui était en retrait. Tout, quand je vous redis, je suis descendu pour la, elle reprend sa vigueur du fait de la prière. Et donc, il lui dit carrément, je vais le sauver et je vais le monter en Eretz Israël. Donc c'est ça la finalité, sauver et le monter. C'est très intéressant parce que la finalité, c'est la décolonisation. La décolonisation, pourquoi elle n'a pas réussi dans certains pays? C'est parce que les gens n'ont pensé qu'à se libérer des colonisateurs. Mais quel projet ils avaient? Donc il ne suffit pas de se débarrasser de l'oppresseur, du colonisateur. Il faut remplacer, il faut créer pour créer une nation, il faut lui donner un projet. Donc le projet, il est de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. Parce que l'essentiel de l'application de la Torah, c'est justement en Eretz Israël. Et là, il y a ce concept-là de Rabbeinu Ari dit que l'Égypte, c'est la gestation de Am Israël. Alors pendant toute la période, la Gemara dit qu'une femme enceinte, il y a trois périodes. Alors, il y a trois périodes, les trois premiers mois où tout ça va, le bébé est en gestation. Après, il change de place et vers le troisième, le neuvième mois, le huitième mois, donc il va sortir. Donc il est sur le point de venir au monde. Alors il dit c'est exactement ça. Il y a une période qui a été jusqu'à de la descente de Yaakov jusqu'à la mort du dernier de cette génération là. Qui étaient bien, ça s'est bien passé, ils étaient en bonne situation, ils ont bien vécu, se sont développés. Après, il y a une autre période, comme nous l'avons dit, qui a duré 117, de 117 à 86, donc c'est 30 et quelques années, 35 ans, c'est la souffrance, ils sont quelque peu oppressés, et puis la souffrance totale. Et après cela, ils sortent. Donc c'est les trois étapes. Et comment ils sortent? Ils sortent aussi en trois étapes. Ils sortent, la première période, c'est la sortie immédiate. Puis, ils arrivent au Harsina, ils reçoivent la Torah. Et là, ils ont toute une période de grandeur où ils grandissent. C'est comme si que l'enfant, il est allaité. L'enfant, c'est comme si que l'enfant il vient au monde et à partir, donc la sortie d'Égypte c'est la naissance et pendant 24 mois, c'est le temps de l'allaitement, il va être allaité, pris en charge jusqu'au moment où il devient adulte. Et quand est-ce qu'il devient adulte? Quand il doit rentrer en Eretz Israël. Donc c'est exactement le système de la construction. Donc la finalité, comment il va devenir? D'abord il doit recevoir la Torah. Recevoir le savoir, donc il doit faire ses études, devenir adulte, grandir, comprendre, s'interroger et assimiler, etc. Jusqu'au moment où il va prendre sa vie en destinée, il pourra fonder un foyer, c'est quand l'âme Israël devra rentrer en Eretz Israël. Donc c'est ça, ici il est dit le projet d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas seulement de le sauver, mais il s'agit de le grandir. Donc si nous disons que l'Égypte, la sortie d'Égypte, c'est la naissance de l'âme Israël. Mais cette naissance-là, elle prend la gestation. Il y a eu la gestation et il y a la naissance. Et la naissance, après la naissance, il faut grandir l'âme Israël jusqu'à qu'il arrive à une certaine maturité pour qu'il puisse rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.